France Inter.
Écrivain, commissaire d'exposition, critique d'art, directrice de la rédaction de la revue de référence dans le domaine de l'art contemporain Art Press, qu'elle a cofondé en 72. Catherine Millet est notamment l'auteur de l'art contemporain, Dali et moi, le corps exposé, la vie sexuelle de Catherine M, jour de souffrance, une enfance de rêve et commencement. Après une douzaine de livres consacrés à l'art, elle s'est tournée vers la littérature et l'autobiographie. Libertine au sens 18e-iste, enquête perpétuelle de nouveautés et de vérité, elle vient de publier chez Flammarion « Simone et Monet » sur sa mère, qui s'est défenestrée en 1982. Un ouvrage ponctué de morts dramatiques, celle de son père à 6 mois d'intervalle, celle de son frère beaucoup plus tôt dans un accident de voiture, mais aussi de nombreux élans vers la vie à travers les éblouissements artistiques, le travail, les amitiés et le collectif. Ce soir, plongée dans la vie esthétique, amoureuse et intérieure. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Lester.
Bonsoir Catherine Millet.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée?
Ah, alors c'est un petit peu difficile parce que plus on vieillit, je trouve, et moins on s'enthousiasme parce qu'on a vu beaucoup plus de choses comme ça qu'auparavant. En fait, je vais vous étonner. Peut-être que ce qui m'enthousiasme en ce moment le plus, c'est que je suis en train de relire Bernanos.
Ah non, vous ne m'étonnez pas. C'est bien écrit, Bernanos.
Oui, c'est très bien écrit, mais c'est un auteur que j'ai, il y a des années, dévoré. En fait, j'ai ce défaut, pardon, je m'attarde un peu, j'ai ce défaut de quand quelque chose me plaît dans le domaine de la littérature, je dévore. Ce qui fait que, le temps passant, j'ai pas gardé un si bon souvenir de ce que j'ai lu, sinon que ça m'a terriblement plu. Donc là, il y a 2 mois, j'ai décidé de relire et de lire ce que j'avais pas encore lu de Bernanos et de relire ce que j'avais déjà lu. Donc ça m'enthousiasme. Voilà.
Alors Bernanos, écrivain catholique, vous étiez très catholique petite, mais vous avez perdu la foi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu la foi?
Alors ça, c'est une énigme, et un jour, je ne sais pas si je serais capable d'expliciter ça, par exemple, dans un livre, parce qu'en fait, c'est la foi, elle m'a quittée sans que je m'en rende compte, vous voyez, c'était, voilà, j'ai pas eu de crise de conscience, ou je n'ai pas eu, comme ça arrive dans certains cas, par exemple, une éducation très très religieuse, qui fait qu'un jour je me serais révoltée contre ça, etc. Non, ça s'est fait doucement, ce qui fait qu'en fait, je reste quand même très très attachée au catholicisme, voilà, mais je ne crois plus.
Le célèbre galeriste Daniel Templon, qui vous connaît bien, disait à votre sujet en 2021 « Son seul militantisme, c'est l'art ». Est-ce que vous êtes d'accord ?
Militantisme, non. Enfin, c'est-à-dire que c'est d'abord ma profession. Bon, et depuis longtemps. Et c'est vrai que je me bats. Si militer, c'est se battre, je me bats. Pour certaines valeurs auxquelles je crois dans le domaine de l'esthétique, je me bats pour faire vivre le magazine Art Press que nous avons donc cofondé avec Daniel Templon il y a très longtemps, et que voilà, il faut continuer à faire vivre ce magazine. Oui, ça oui, mais je m'intéresse quand même à d'autres choses dans le domaine de la société. Alors j'ai pas milité vraiment pour ça, mais je me suis trouvée au cours de ces dernières années prise dans des polémiques, comme vous pouvez savoir, par exemple dans les affaires de MeToo. J'étais quand même très opposée aux exagérations, disons, de ce mouvement. Bon, donc est-ce que ça, on peut appeler ça du militantisme? J'en sais rien, mais en tout cas je reste fidèle à mes convictions. Donc si on m'interroge encore aujourd'hui là-dessus, eh ben je redirai la même chose. Voilà, j'ai des convictions.
Je comptais pas du tout vous interroger là-dessus, mais alors justement, quand on est au cœur de polémiques, comme c'est vous que j'ai envie de découvrir ce soir, est-ce que vous êtes touché par les polémiques, par les critiques virulentes que vous avez
pu
recevoir?
Ah non, pas du tout.
Ah oui.
Non, pas du tout. Alors des fois un peu fatiguée, vous voyez, parce que on en a marre de répondre toujours la même chose pour défendre ses idées. Mais non, si vous voulez, si vous me posez la question de savoir si je suis intimement touchée par les attaques, non, pas du tout. Ça, vraiment, ça me reste complètement extérieur. Et puis je me dis toujours que dans les attaques de certains, il y a de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Que voilà, je suis assez freudienne, donc je me dis si quelqu'un me déteste autant, c'est que peut-être au fond, il refoule l'amour qu'il a pour moi.
Ah oui, ça c'est une façon de mieux recevoir la vie en général. En 2021, vous disiez que ce qui vous sauvait, c'était d'être critique d'art. Et j'aimerais bien vous citer parce que vous disiez une chose très belle et j'aimerais savoir si elle est toujours d'actualité. Même si je pense qu'on a vécu des époques plus créatives et plus excitantes, ça me permet de vous dire que je ne suis pas complètement désespérée de l'avenir de l'humanité. On trouve encore des artistes singuliers qui font des choses formidables. En voyant leurs œuvres, on peut se nourrir d'une manière qui aide à vivre. Je crois en la faculté de certains individus de produire quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Êtes-vous d'accord avec la quatrième miette 2021?
Oui. Ah oui? Oui, bien sûr.
Dans ce monde où tout semble désespéré, ou alors c'est ce qu'on aimerait nous faire croire?
Non, mais je crois qu'il y a des artistes. Je pense que l'art, ça consiste à transformer, au sens propre d'ailleurs, à transformer des choses qui sont douloureuses, dramatiques, terribles, en beauté. Bon. Alors, pour tout vous dire, avant-hier, j'ai déjeuné avec un ami, Pascal Convert, qui est un artiste. Vous voyez, qui est allé travailler en Afghanistan il y a quelques années, qui, il y a plus longtemps, allait régulièrement pendant la guerre civile en Algérie. Il est allé là-bas avec un photographe pour ramener des images à partir desquelles il a fait des sculptures, des bas-reliefs, etc., dans des matériaux qui sont très très beaux. Aujourd'hui, il travaille beaucoup le verre et il transforme de vieux crucifix, vous voyez, qui trouvent, je sais pas, dans les brocantes, tout ça, en des sculptures absolument magnifiques. Il est très très proche de tout ce qui se passe de dramatique. Il le reflète dans son travail, mais en faisant des objets magnifiques. Donc ces objets, à la fois, ils nous rappellent ce qu'est le destin de l'humanité, malheureusement, et puis, en même temps, ils nous soulèvent par cette exaltation de la beauté qu'ils réalisent. Donc voilà, pour moi, c'est ça, une œuvre d'art. Et donc je continue à y croire.
Vous dites que votre moteur, c'est justement le besoin de nouveauté, de découverte.
Ah oui, moi j'ai besoin de voir.
À le combler, ça, toujours.
Oui, alors, ça aussi, c'est une chose à laquelle vous me posez une question. Il va peut-être falloir que je m'y attelle. Parce que, en effet, j'ai cette pulsion qui me conduit toujours. J'ai toujours besoin de voir quelque chose de nouveau. Et tant qu'à faire, si c'est nouveau, d'attractif, qui m'aspire en quelque sorte, qui soit beau, qui me donne l'impression que je suis moi-même plus belle ou plus intelligente, enfin je sais pas, bon. Et pourquoi ça? Hein? je me pose la question à moi-même, pourquoi je suis à cette recherche en permanence comme ça? Qu'est-ce que je cherche à combler, bon, en moi? Parce que j'ai pas d'a priori, parce que si je m'occupe justement d'art contemporain et d'avant-garde, c'est parce que j'aime bien être surprise, ne pas reconnaître forcément des formes que j'aime déjà, en découvrir des nouvelles. Je sais pas, peut-être qu'il va falloir que je me mette au boulot avant qu'il soit trop tard pour répondre à cette question.
Dans la vie sexuelle de Catherine M, vous dites qu'à votre timidité s'est substitué l'ennui. Est-ce que vous arrivez à le tromper aisément, cet ennui? Comment faites-vous surgir l'inattendu?
Oui, ça m'arrive encore d'être ennuyée, oui.
Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Parce que là, vous sonnez comme... Moi, j'avais fait mon mémoire à la fac sur Dorian Gray, qui veut toujours de la nouveauté, qui veut toujours de la beauté.
Oui, oui.
C'est un hédonisme frénétique qu'il recherche.
Oui, c'est très caractéristique, d'ailleurs, en effet, d'une certaine époque, en plus, oui.
Alors, comment est-ce qu'on fait pour pas être déçu? On est d'autant plus déçu quand on en a autant soif.
Non, je pense pas. Je pense qu'il y a toujours des choses à... Il y a toujours des choses à découvrir. Non, alors quand je parle d'ennui, c'est un autre ennui. C'est lorsque, tout simplement, vous vous trouvez en présence de gens qui, justement, ne vous apportent pas cette surprise que vous attendez. Voilà, donc vous vous ennuyez. J'ai participé à l'occasion de la sortie de ce livre. J'ai participé il n'y a pas très très longtemps à une émission. Il y avait d'autres participants, évidemment. Des amis qui ont assisté à cette émission voyaient que pendant que d'autres parlaient, je m'ennuyais. J'avais vraiment l'air de m'ennuyer.
Vous ne pouvez pas dissimuler les choses ? Vous n'en avez pas envie,
non,
peut-être ?
Non, j'étais peut-être concentrée sur mes propres... ce que j'avais moi-même à dire, voilà.
Vous dites qu'on vous considérait comme quelqu'un qui n'avait pas d'interdit et d'inhibition et que cette place vous convenait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des interdits ou des inhibitions ?
Alors, il y a un petit peu plus d'interdits. Alors, dans l'absolu, je dirais non, parce qu'en fait... Enfin, ça dépend de quels interdits vous voulez parler.
Tous, aucun, ceux que vous voulez ?
Alors, bon... Il y a des choses qui, aujourd'hui, étant donné l'âge que j'ai, me sont interdites. Ça, c'est
interdite par vous ?
Comment ?
Que vous vous interdisez, vous ?
Non, qui me... Oui, je pourrais même dire que je m'interdis à moi. Voilà, il y a un comportement... Bah, disons qu'il y a un comportement... par rapport aux autres... dans le domaine de la sexualité, il y a des choses que je ne m'autoriserai plus, oui, bien sûr.
Je peux vous demander quoi, ou c'est trop impudique ?
Au point où j'en suis, je peux y aller. Non, je pense que j'ai un corps qui a vieilli, quand même.
Et ça vous gêne ?
Non, ça me gêne pas, mais alors là, c'est installé une sorte de pudeur qui fait que vous n'avez pas envie d'exposer un corps qui a vieilli, qui a été ce qu'il a été, que certains ont trouvé pas si moche, mais il n'est plus comme ça. Donc là, aujourd'hui, je m'interdirais, si vous voulez, sinon il faudrait vraiment que je sois très très en confiance, mais je m'interdirais d'exposer ma nudité comme je l'ai fait à une certaine époque. Bon, mais ça c'est... Je trouve que c'est une question presque de morale, quoi, en fait, vis-à-vis de l'autre, de respect de l'autre. Bon, alors ça, ce genre de choses. Et puis, je vais encore dire juste deux petits trucs par rapport à MeToo. Ça me coûte, mais je le fais quand même. Je pense que quand même, d'une façon générale, dans l'espace public, il y a beaucoup moins de liberté aujourd'hui qu'il n'y en a eu. Mais ça, tous les gens de ma génération vous le diront.
Hein. Non, mais ça en revanche... Je vous rejoins, là, je ne parle pas de MeToo, mais je parle du manque de liberté dans l'espace public.
MeToo est responsable, mais il y a d'autres choses. Et on voit bien comment même nos sociétés libérales, finalement, rétrécissent de plus en plus les libertés. On ne le sent pas trop parce qu'on se compare à d'autres où c'est bien pire.
Oui.
Mais quand même, il faut être réaliste, oui.
Alors,
et attentif.
Je vous pose une question naïve. Vous ne voyez aucun bon côté à MeToo dans la libération de la parole ? Dans le fait qu'on mette plus de limites ?
Ouais, la libération de la parole, comme c'était surtout une parole aveuglément accusatrice, je trouvais pas que ça soit... Enfin, je trouvais pas que c'était tellement libérateur. Bon, peut-être que ça a eu quand même des effets... Vous voyez, je suis consignante, ça a eu des effets positifs. Que, par exemple, on dit toujours que... une fille qui va déposer plainte pour une violence est peut-être un peu plus écoutée dans un commissariat qu'elle ne l'était auparavant. Il y a un peu plus de mobilisation sur ces questions-là. Alors ça, c'est bien sûr que je vais pas dire que c'est pas un effet positif. C'est très bien ça. Bon, mais quand il s'agissait d'envoyer au pilori des gens qui le méritaient pas, ça c'était moins bien.
C'est une minorité. Je crois qu'il y a 1% des plaintes qui sont suivies et tout le reste est classé sans suite. Il me semble, il faudrait que je vérifie les chiffres.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Catherine Millet, vous disiez dans Le Monde en 2019, racontez les choses pour vous en débarrasser. Mais tout à l'heure, vous avez dit, en fait, on ne peut pas vraiment se débarrasser des choses. Enfin, elles vous imprègnent systématiquement.
Alors, oui et non. Oui et non. Je pense que, en tout cas, s'il s'agit des livres que j'écris, pour une part, si je reviens sur des événements de l'enfance ou de ma jeunesse ou même des événements plus récents, c'est bien qu'en effet, ils continuent de m'habiter. Et que, par exemple, si c'est pour parler du dernier livre, cette douleur qui a été la mienne au moment du suicide de ma mère, C'est bien parce que c'est toujours en moi, bien sûr. Bon. Mais précisément, alors, une fois que c'est écrit, j'écris pas pour ça, j'écris au contraire pour essayer de préserver ce qui est en moi, ou essayer de retrouver des souvenirs. En fait, à propos de ce dernier livre, La Simone et Monet, peut-être que c'est qu'en cours de route que je me suis rendu compte que j'écrivais le livre pour être à nouveau pendant 2 ans, les 2 ans d'écriture du livre, en compagnie de ma mère. Vous voyez ? Bon, je la retrouvais tous les jours, tous les soirs, en photo certes, mais je la retrouvais avec son histoire et tout ça que j'essayais d'imaginer. Enfin bon.
Vous avez eu du mal à finir le livre d'ailleurs.
Comment ?
Vous avez eu du mal à finir le livre.
J'ai eu beaucoup de mal à finir le livre parce que j'arrivais pas à me séparer d'elle. Voilà. Bon. Et puis, en même temps, une fois que c'est dans le livre, imprimé, qui part comme ça, dans les librairies et tout, et que même je me trouve dans cette situation, comme en ce moment avec vous, en train d'en parler, eh bien, c'est devenu un objet extérieur à moi. Et peut-être que, je ne dis pas que je vais ne plus penser à ma mère et à son suicide, voilà, dans les années qui viennent, mais... oui, il y a une part de moi qui part au point que souvent, alors j'oublie complètement ce que j'ai écrit, vous voyez, bon, que des fois même je suis obligée, par exemple quand forcément le dernier livre recoupe des faits qui sont racontés dans un précédent livre sur l'enfance. Bon, je me souviens absolument pas de ce que j'ai raconté dans ce livre. Donc pour pas trop me répéter, j'aime pas ça. J'étais obligée de me reporter, de me relire moi-même pour être sûre que j'allais pas complètement redire les mêmes choses. Donc une fois que c'est écrit, parti. Voilà, oui, je m'en suis débarrassée, c'est sûr. Oui.
Est-ce que vous êtes débarrassée de la jalousie en écrivant Jour de souffrance?
Oui, quand même, en gros, oui. Oui, oui. Ça, il valait mieux, quand même. Bon, mais... oui, c'est sûr que... En fait, c'est... Mais j'en étais peut-être déjà débarrassée un peu avant. Pour me mettre au travail sur le... Là, il fallait que vraiment... Alors, la phase critique, vous voyez, l'accès de fièvre soit retombé. Oui.
Vous faites souvent des descriptions cliniques dans vos livres, vous passez aisément de psychologie ou d'explication, mais vous avez fait une psychanalyse.
Oui.
Ça vous a apporté quelque chose ?
Oui, oui, oui. J'ai une amie, j'ai une amie qui disait toujours de moi que les psychanalyses devraient m'utiliser comme une publicité pour leur activité, tellement elles voyaient de différence entre celle que j'avais été, qui devait être assez une emmerdeuse, et celle que j'étais devenue. Donc ça a dû en tout cas apporter quelque chose à mon entourage.
Et que pensez-vous a posteriori de ce psychanalyste qui vous a dit que voir votre mère dans les bras d'un autre homme vous avait sauvé ?
Eh ben, je sais toujours pas. Je sais toujours pas... Maintenant, c'est pas. Est-ce que c'est vraiment utile que je continue à me gratter la tête pour essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire ? Et puis, je pense aussi, vous savez, que les psychanalystes, ils peuvent. Vous savez, c'est un peu comme Donald Trump en ce moment. Il balance un truc comme ça, et puis il voit ce que ça donne. Vous voyez ? Il n'est pas forcément sûr de ce qu'il est en train de dire, mais il le balance parce que ça fait bouger les lignes, et puis peut-être que ça va produire quelque chose. Et je pense que les psychanalystes, parfois, doivent tenter ça. Ils lancent une phrase, après tout, elle va peut-être être entendue d'une façon ou d'une autre par leur analysant, et il va peut-être en faire quelque chose, et il va en sortir quelque chose. Donc voilà, peut-être qu'il ne faut pas plus se prendre la tête.
Alors moi, je vais un peu vous prendre la tête, Catherine Millet, puisque en 2008, vous avez dit à Livre Hebdo, je n'avais pas pris conscience de certains aspects, disons, pervers de ma personnalité, je me voyais assez naïve, je n'avais pas mesuré à quel point, par exemple, j'étais masochiste et plus que tout voyeuse. Alors est-ce que vous êtes toujours aussi masochiste ? Et j'aimerais bien avoir votre définition de la perversité. Est-ce qu'elle est celle de Roland Barthes ou de Deleuze, ou est-ce qu'elle est esthétique ?
Oh non, enfin moi, moi ma définition de la perversité, enfin en tout cas en ce qui me concerne, et si je parle de la mienne, c'est que c'est une façon, disons, détournée de prendre son plaisir, quoi. C'est pas simplement, voyez le
faire ses propres règles,
le coït comme ça, voilà. On peut jouir autant, sinon plus, en regardant un couple coïter et non pas coïter soi-même. Donc c'est ça la perversité, c'est prendre des détours, prendre du plaisir. Et moi par exemple, alors je sais plus 2008, je sais plus quand j'ai pu dire ça, mais c'est peut-être en effet quand j'ai découvert que pour moi la jalousie était une source de plaisir sexuel intense.
Là, voilà. C'est la Vénus à la fourrure.
Ouais, voilà. Mazoc, c'est, ou... Voilà. Ben, je pense que c'est assez partagé quand même.
Vous pensez?
Ah oui.
Est-ce que, alors, on dit que la vie n'est que souffrance. Est-ce que c'est plus facile de la supporter quand on est masochiste?
Oui. Bon, je suis pas une grande masochiste. Enfin, puis je sais pas. Là aussi, c'est des choses qui se corrigent, je crois, avec l'âge. Bon, oui, ça c'est pas...
Tout à l'heure, on parlait du fait que vous aviez perdu la foi. Vous trouvez la transcendance par l'art ou par le chant charnel ?
Oui, je pense que l'art ou certains livres comme ça, pas forcément écrits par d'ailleurs des auteurs catholiques comme Bernanos, mais je pense que certaines formes de beauté, bien sûr, là, c'est à travers ces formes d'art ou de littérature qu'il y a une élévation de l'humanité à quelque chose qui est plus grand qu'elle, ça je le crois, et que cette aspiration à quelque chose qui est au-delà parfait et qu'on ne peut pas vraiment atteindre, eh ben c'est l'art aujourd'hui qui le prend en charge. C'était un peu l'idée de Malraux, vous savez, que voilà, les foules allaient se précipiter dans les musées parce qu'elles ne se précipitaient plus dans les cathédrales. Ben je pense ça. Il y a une aspiration à quelque chose, mais que le drame de notre époque justement, c'est ce quelque chose, on ne peut pas le nommer. Bon, alors c'est de l'art, ok, bon, mais au-delà, cet art il tend à quoi, on ne sait pas. Mais voilà, il y a cette tension.
Le sacré, ça existe toujours ?
Ouais, j'appelle pas ça le sacré, mais oui, non, le sacré, c'est autre chose. Pour moi, le sacré, c'est ce à quoi on ne touche pas, justement. Vous voyez, le sacré, on ne touche pas au sacré.
Mais
c'est
y en a
sacré
plus,
quand. Ah oh, ben non, c'est pas. Vous voulez dire que c'est. Il y en a plein partout du sacré en ce moment.
Du tabou.
Non, je crois que quand on dit, il faut pas toucher à ça. Bah, c'est parce qu'on considère que ce ça est sacré. Mmh.
Dans Commencement, vous parlez d'un professeur particulier de mathématiques dans votre jeunesse qui s'appelait Patrick.
Oui.
Et auquel vous montriez vos poèmes. En fait, c'était lui votre premier lecteur.
Oui.
Ça vous a encouragé ou pas? Parce qu'il les annotait comme des copies d'élèves.
Ouais, d'une certaine façon, ça m'a encouragé, bien sûr. D'abord, j'étais amoureuse de lui. Il était assez joli garçon. C'est ce qui est raconté donc dans Commencement, c'est que avec un groupe de copains, parmi lesquels il y avait Daniel Templon, ils avaient commencé à publier une revue de poésie, à s'introduire un petit peu dans le milieu de l'art.
C'était
Et moi, je les ai suivis. Donc, quand même, ça a joué un certain rôle dans ma vie.
Vous dites que la présence de ce Patrick a été un fil qui vous a justement tenu à ce que vous pouvez appeler le destin. Et alors, quand on lit vos interviews ou vos ouvrages, on a l'impression que toute votre vie, vous avez pris les choses comme elles venaient, que vous ne vous êtes jamais opposé à ce destin, que vous n'avez jamais essayé de changer le cours des choses, ou sauf peut-être en fuguant.
Ouais.
Trois fois.
Vous avez compté ça ?
Bah oui.
Ah oui. En prenant la fuite, oui.
Vous accommodez aisément du réel ?
Ouais, parce que parce que j'ai une vie intérieure intense.
Mais c'est ça le secret finalement.
Et donc lorsque l'environnement ne me convient pas, je me réfugie en moi-même et puis je vais peut-être trouver la petite porte de sortie là de la petite souris pour m'échapper. Alors ça peut être par l'imaginaire. Quand j'étais enfant et que je souffrais un peu des disputes au sein de la famille et tout ça, j'allais dans mon petit coin bibliothèque, je prenais un livre, voilà. Bon, enfin, c'est un peu schématisé tout ça, mais enfin, disons que c'est un peu comme ça que ça se passait, oui.
Mais d'ailleurs, dans Simone et Monet, malgré tous les drames qui ont traversé votre vie, je pense au cancer de votre père, à l'accident de votre frère fatal ou au suicide de votre mère, vous dites qu'en fait, vous arriviez à ne pas penser à eux, non pas par l'absorption dans le travail, mais par l'absorbement. Est-ce que vous pouvez définir la nuance ?
Oui, parce que ça... Alors, je crois, ça je l'ai souvent dit, je crois que ce qui m'a protégée, pendant cette période, parce que finalement, ces décès, disons de toute la famille, quoi. Hein. Ça s'est passé dans un laps de quelques années assez court, en fait. Bon, et j'étais jeune, j'avais une trentaine d'années, et c'est une période de la vie où on est vraiment entraîné dans la vie. C'est une période de découverte comme ça. Et moi, c'est ce que je raconte dans Simone et Monet, c'est que pendant que ma mère était hospitalisée, par exemple, ou mon père, eh ben, j'allais de découverte en découverte en Italie, dans les musées, dans les églises, j'allais voir des peintures absolument magnifiques, j'étais exaltée par ces découvertes, voilà. Bon. Et c'est vrai que j'étais tellement prise dans ces découvertes, pendant cette période, que voilà, bah le temps que j'étais là-bas en Toscane à faire ces voyages, eh bien c'est vrai que j'arrivais à oublier le drame familial ou les drames familiaux, oui, bien sûr.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Alors, Vladimir Nabokov, quelle est votre langue préférée ? Est-ce que c'est le russe, l'anglais ou le français ?
La langue de mes aïeux est encore celle où je me sens parfaitement chez moi. Mais je ne regretterai jamais ma métamorphose américaine. Le français, ou plutôt mon français, qui est quelque chose de très spécial, ne se plie pas si bien au supplice de mon imagination. Sa syntaxe me défend certaines libertés que je prends naturellement avec les deux autres langues. Il va de soi que j'adore le russe, mais l'anglais le surpasse comme instrument de travail.
Ah oui ?
Il le surpasse en richesse, en richesse de nuances, en prose délirante et en précision politique.
Vladimir Nabokov dans Apostrophe de Bernard Pivot en 75. Catherine Millet, vous ne trouviez pas la forme pour parler du suicide de votre mère dans votre ouvrage Simone et Monet, et vous l'avez trouvé en lisant Nabokov.
Ah oui, en fait, c'est le Nabokov autobiographe.
Autre rivage ?
Oui, c'est le... Cette façon, enfin, autre rivage, c'est en fait une collection de textes écrits, je crois, à différentes époques, etc. Mais qui s'enchaînent très très bien comme ça. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de mes petits chapitres. Ça m'a autorisé, c'est pas vraiment un modèle, mais disons que ça m'a autorisé à faire ce livre avec des petits chapitres qui n'ont pas de lien chronologique, enfin qui ne s'enchaînent pas de façon chronologique, bon, mais qui sont quand même. Reliés les uns aux autres. Je pense qu'il y a quand même une logique très très souterraine. Bon, alors j'allais dire peut-être qu'il y a que moi qui suis sensible, mais quelques retours de lecteurs que j'ai eus comme depuis la sortie du livre me confirment que quand même les gens peut-être peuvent pas l'exprimer, mais sentent que voilà, on enchaîne très bien ces petits chapitres les uns derrière les autres. Alors voilà, c'est oui, c'est le Nabokov de la structure. C'est pas le Nabokov du contenu érotique de certains de ses livres.
Ich glaube zum Beispiel festgestellt zu haben, dass diese Epoche, in der die großen Innovationen durch künstlerische Persönlichkeiten, beispielsweise ja die Moderne, was man die Moderne nennt,
l'époque des grandes innovations, c'est-à-dire l'époque moderne, touche à sa fin et qu'on arrive actuellement à la fin de cette époque de ce qu'on appelait la moderne.
Aber das Ende der Moderne bedeutet nicht das Ende der Kunst, selbstverständlich.
Cette fin d'une époque ne signifie pas la fin de l'art, mais est au contraire une possibilité de l'évolution de l'art, même de l'évolution de l'histoire humaine, donc d'une façon anthropologique de l'art, mais ça voudrait dire qu'il faudrait élargir la notion de l'art.
C'est Joseph Beuys qu'on entend au micro de Jean Dev sur France Culture en 81. Catherine Millet, dans votre récit Simone et Monet, il se trouve à un moment face à votre mère, et c'est à la fois un moment d'épiphanie où on peut ressentir aussi peut-être une pointe de honte.
Oui.
Il y a beaucoup de sentiments mêlés dans votre récit. Pulsion de vie, pulsion de mort.
Oui, en fait... Joseph Beuys, que j'ai pas très bien connu, en fait, je l'ai approché vraiment que cette seule fois racontée dans le livre où il est venu nous rendre visite. C'était pas un artiste, c'est un artiste très théoricien, en fait. Et moi, j'ai jamais vraiment adhéré à ces théories qui consistaient, en effet. Alors, il avait cette idée, en effet, de l'art élargi. Mais il l'entendait plutôt au sens social, c'est-à-dire d'avoir une activité sociale. Bon, et ça, moi, j'y crois pas trop. C'est-à-dire que l'artiste qui s'investit vraiment dans une action sociale, par définition, il est limité par les règles de la société, à commencer par les règles politiques, etc. Bon, donc ça, moi, je suis assez réservée là-dessus. Maintenant, quand même, cette idée d'un art élargi, d'un art nouveau qui correspond pas aux définitions qu'on avait jusque, disons, le début du XXe siècle. Oui, bien sûr que ça s'est élargi. D'abord, on le voit. Alors, on le voit d'une manière très spectaculaire depuis quelques années. Où ce qu'on entend par art, ça inclut pas simplement notre propre civilisation, notre propre tradition, mais toutes les autres traditions. Ça inclut des œuvres qu'on considérait plutôt dans les marges jusqu'à présent, etc. Bon, donc c'est en effet extrêmement élargi. Mais pour moi, l'artiste doit rester complètement libre et ne pas essayer d'être un acteur social. Voilà, je ne crois pas.
Est-ce qu'il y a un rapport entre cette femme de 39 ans, entre votre personnage et vous ?
Non, il y a un rapport parce que c'était un personnage de femme. Par conséquent, je comprends mieux que les deux personnages masculins qui m'intéressent plus.
Paul, à 39 ans, avez-vous pu imaginer facilement une femme de 39 ans ?
Oui, pourquoi pas.
Qu'est-ce que c'est une femme de 39 ans pour vous ?
Moi j'ai 25 ans, ça fait une femme qui a 14 ans de plus. Quoi.
Oui, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ces 14 ans ?
Eh bien, c'est 14 ans où on apprend à vivre, à faire des concessions, à se résigner à des choses, à en accepter d'autres.
Vous m'avez dit ces 14 ans de patine tout à l'heure.
Oui.
C'est seulement la différence.
De patine et puis peut-être d'expérience, encore que je ne crois pas à l'expérience.
On entend Lecture pour tous, présentée par Pierre Dumayet en 59 avec Françoise Sagan. Et c'est dans cette émission que vous l'avez découverte, Catherine Millet. Et je crois que c'est votre mère qui vous a transmis le goût de la littérature et de la grammaire parfaite.
Ah oui, c'est vrai. Oui, ma mère, ma mère écrivait très, très bien. Elle avait une très grande maîtrise de l'orthographe et de la grammaire. Et en effet, là, dans ce dernier livre, je lui rends hommage parce que il y a des règles d'accord, par exemple, que j'applique parce que j'ai encore en tête la petite leçon qu'elle m'avait donnée, quoi. Oui, bien sûr. Mais ça m'émeut toujours quand j'entends la voix de Françoise Sagan parce que d'abord parce que oui, c'est elle a été, je le dis comme ça vraiment très très spontanément depuis longtemps, c'est que elle a été un modèle. Moi, je voulais être Françoise Sagan quand j'avais 15 ans. Puis elle était... Bon, elle était d'autant plus un modèle qu'elle a été célèbre très très jeune, justement. Alors, je pouvais m'identifier. Moi, j'ai attendu un peu plus longtemps avant de publier de la littérature. Mais je pouvais, à 15 ou 16 ans, m'identifier à son personnage, comme ça. Et puis, elle avait cette simplicité, comme ça, très, très séduisante. Moi, Sagan, l'écrivain, c'est pas vraiment un modèle pour moi, mais le personnage était vraiment très très sympathique, très.
Juste un sosie de toi chaque nuit ne m'apporterait pas l'oubli. Daisy,
l'espoir d'une vie craque entre mes doigts jaunis. Rejoins-moi ce vieux mélodrame, tu sais ce
de ce soir, Daisy de Christophe, et je suis avec Catherine Millet en studio et en direct. Nous parlons de son ouvrage Simone et Monet, paru chez Flammarion, et dedans il y a deux informations qui m'ont frappée. C'est que d'abord vous parlez de votre cerveau anxieux et de votre capacité à rêver. Vous le dites au sujet du rêve d'avoir un enfant qui vous a très brièvement caressé, et vous dites que vous avez toujours rêvé, comme vous rêverez toujours, de vivre d'autres vies. Alors, où en êtes-vous de la rêverie? Où en êtes-vous de l'anxiété?
Alors, bonne question, parce que la rêverie... jusqu'à un certain moment de sa vie, c'est une projection dans l'avenir, forcément. On rêve de ce qu'on va devenir, de ce qu'on va réaliser. Alors, ça peut être un rêve extrêmement ambitieux, un avenir de professionnel, par exemple. Et puis, ça peut être simplement le rêve d'un voyage, quelque chose de plus facile à réaliser. Et évidemment, le temps passant, dans le meilleur des cas, on a réalisé, on a atteint quelques-uns de ces rêves, c'est le cas de le dire, on les a réalisés. Bon. Mais moi, je continue à... Oui, moi, je continue à leur avoir des... Bon, je rêve plus de devenir un écrivain célèbre qui passe à la télévision comme François Sagan, puisque ça m'arrive de passer à la télévision et d'être... d'être écrivain. Bon. Mais oui, il y a des choses, des rêves très bêtes que j'ai toujours pas réalisés. Alors, je vais pas vous le dire lesquels, parce que...
Moi, j'allais vous le demander, évidemment.
parce que justement, je veux que ça reste comme ça, quelque chose dans un coin de ma tête. Et puis, je me dis que peut-être un jour, je le ferai, quoi. Mais c'est des rêves plus modestes et finalement plus faciles à réaliser, sans doute, que le fait de devenir un écrivain célèbre.
Et l'anxiété, alors?
Ah ouais, bah ça, alors là, n'en parlons pas. Ça, l'anxiété, elle est toujours là, oui. Bon, mais oui, moi, c'est même... comment dire ça, merci l'exomile. Hein.
Ah oui, bah ça, je vous rejoins. Il y a un passage qui a attiré mon attention dans votre livre, Catherine Millet, puisque vous parlez d'un fantasme de désincarnation. Vous parlez du paradoxe du narcissisme, se fondre dans une image, et d'un fantasme de désincarnation. Ah, oui. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas une pulsion de mort dans cette envie de se dissoudre.
Waouh, c'est...
C'est intense, oui, je suis comme ça, à l'heure du dîner.
C'est très haut niveau, notre conversation, oui.
Pas de small talk.
Oui, oui. Oui, je sais à quel passage vous faites allusion, parce que, en fait, c'est l'identification à des... Pour une femme, à des modèles comme ça. Quand on est très jeune, on s'identifie, je sais pas, à un mannequin, une vedette de cinéma, etc. Bon, donc à une image, en fait, parce que on l'approche rarement. Et puis je dois parler de ça au moment où, parlant du rapport de ma mère à la mode, dont j'ai hérité, il y a la projection aussi. On passe devant une vitrine, on ouvre un magazine, on se projette aussi là dans une image. Bon, et c'est une forme de désincarnation, parce que dans cette projection, on s'idéalise forcément. Peut-être qu'on rêve de rentrer dans une robe dans laquelle on pourrait pas rentrer. Vous voyez. Bon, donc il y a une forme, et en effet, il y a une négation du corps réel à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est une pulsion de mort? Mais c'est se perdre dans une image, ouais. C'est en effet, en tout cas, se détacher, ouais, se détacher de son existence physique, bien matérielle, comme ça.
Il y a une chose étonnante en vous écoutant, c'est que d'un côté vous vous dites que vous ne pouvez pas écrire sans image, que pour écrire il vous faut décrire, et d'un autre côté vous dites que vous ne connaissiez rien à l'art contemporain, que vous avez appris sur le tas, et il semble que votre expérience du monde soit en fait une expérience physique du monde.
Oui, oui, oui. Il y a même un passage comme ça dans le livre. C'est que pour moi, la découverte de la peinture, c'est la découverte de la peinture vraiment... l'image que j'ai peinte en face de moi, s'il s'agit de peinture. Je suis absolument horrifiée aujourd'hui lorsque je découvre que des gens qui font le même métier que moi, parfois, ou certains artistes, ont une connaissance des œuvres d'art uniquement à partir des reproductions des images, et encore même pas sur du papier, mais sur un écran, ce qui est encore plus dématérialisant. Bon, et ça, pour moi, ça, c'est se priver d'un certain plaisir qui est le rapport physique à l'œuvre d'art, bien sûr. Moi, j'adore être tout près d'une fresque qui a été peinte il y a des centaines d'années, parce que là, je ressens physiquement la proximité avec le peintre qui était là, qui occupait la même place que moi. Et ça, c'est vraiment très jouissif. Bon, mais peut-être que ça m'est propre, que tout le monde ne partage pas ça, ne le comprend pas. J'aime ce plaisir-là.
Alors, il nous reste quelques secondes avant la fin de cet entretien. Je vous ai demandé une chose à faire découvrir aux auditeurs, et c'est Les Habités, l'art premier et l'art brut en dialogue, une exposition à la galerie Christian Berst jusqu'au 26 octobre.
Oui, en fait, Christian Berst est un pionnier. Il a une galerie qui a très tôt, il y a 20 ans, puisque c'est l'anniversaire de sa galerie, montré de l'art brut, en faisant de très bons choix, parce que c'est pas toujours le cas, parce que voilà, toutes les œuvres d'art brut sont pas d'intérêt égal. Et là, pour son anniversaire, il a eu l'idée avec des collaborateurs de faire une exposition où il associe des œuvres d'art brut avec ce qu'on appelle aujourd'hui des œuvres d'art premier, vous savez, donc venant d'Océanie, d'Afrique, etc. Et c'est extrêmement réussi. C'est une exposition très dans l'espace d'une galerie, donc c'est assez modeste comme dimension, mais c'est très profond, j'ai trouvé, voilà.
Merci beaucoup Catherine
Millet. Merci à vous.
Votre ouvrage Simone et Monet est paru chez Flammarion. Et cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Tempero, Alexandra Conet et Franck Olivar. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Jérôme Ragano. À demain.